Découvrir l'étymologie, l'origine et la construction du nom des plantes, c'est se laisser emporter dans un voyage, c'est plonger dans l'histoire et le passé, c'est entrer dans la relation intime, ancienne, originelle, et parfois oublier qui lie l'homme et le végétal. C'est aussi se familiariser et entrer dans un monde à la fois simple et abordable, et à la fois technique et complexe, mais toujours dynamique. C'est donc une immersion dans l'univers du nom des plantes proposée dans cette nouvelle émission Urbaflore.
Urbaflore, c'est l'émission du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées qui est animée tous les mois par Jérôme Garcia. Bonjour Jérôme.
Bonjour Lisa, bonjour à tous.
Aujourd'hui, tu vas nous parler du nom des plantes. Comment sont nommées les plantes? Qui choisit leur nom et comment est-ce qu'on le retrouve? On commence, comme chaque mois, cette émission par un pourquoi, par une question. Pourquoi nommer une plante?
Oui, et puis tu peux dire l'étymologie finalement de nommer.
Alors normalement c'est ça qu'on fait, mais là j'ai le conducteur sous les yeux et je ne vois pas.
J'ai pas posé la question de la même façon. Mais nommer, ça vient du verbe latin nominare, qui vient de nomen, qui veut dire le nom. Nommer, c'est attribuer donc un nom à quelqu'un ou quelque chose. C'est lui associer un mot qui va le qualifier, le déterminer, le singulariser, lui donner une existence et une identité. Nommer une plante, c'est donc identifier un végétal à partir d'éléments qui le distinguent d'un autre. Ça peut être sa forme, sa taille, sa couleur, sa saison d'apparition pour les fleurs ou pour les feuilles. Et ça permet pour les êtres humains de se comprendre, de parler le même langage, de pouvoir partager, d'apprendre, de cultiver telle ou telle espèce ou de la protéger. C'est une approche qui est utile donc pour nous, qui utilisons certaines plantes et pas d'autres pour se nourrir, se soigner, s'enivrer, s'habiller ou se loger.
Et alors, comment sont nommées les plantes?
Les plantes, on va les nommer de deux façons. On va les nommer avec un nom vernaculaire et avec un nom latin, ou avec un nom latin. Pour le nom vernaculaire, c'est ce qu'on appelle aussi le nom français, le nom commun ou le nom d'usage. D'une certaine façon, il y a autant de noms communs pour une même plante que de culture, de dialecte, de territoire ou de religion. Ainsi, il y a une plante qui va être répandue sur un vaste continent pourra avoir plusieurs noms. Ce nom, c'est aussi le reflet de certaines formes ou de certaines vertus, de particularités botaniques. Par exemple, là, il y a un petit géranium qui s'appelle le géranium Herba Robert. Est-ce que finalement, son nom, ça vient d'un certain Robert ou Rupert, premier évêque de Salzbourg au 8e siècle, qui l'aurait utilisé pour ses vertus anti-hémorragiques? Ou alors est-ce que ça vient simplement de sa couleur rougeâtre, qui se dit ruber en latin? Quoi qu'il en soit, cette plante, elle se fait aussi appeler, en nom français ou nom commun, le bec de grue, l'aiguille Notre-Dame, l'épingle de la Vierge ou la fourchette du diable, en référence en fait à la forme de ces fruits qui ressemblent un peu à des épines. Et puis de la même façon, on a le coquelicot qui porte aussi ce nom, en référence au chant du coq, dont la crête rouge rappelle celui de la fleur, et parce que le coq fait cocorico, donc coquelico, c'est quelque chose qui est assez proche, donc on pense que ça viendrait de là. L'exemple aussi de la pâquerette, qu'on nommerait ainsi parce qu'elle fleurit à Pâques, on peut aussi se demander si ça ne vient pas du fait qu'elle pousse dans les prés, se disant pâquis en latin, en vieux français, pardon. Un autre exemple, l'ortie, ça vient là du latin urtica, qui signifie brûler, et on comprend très bien pourquoi si on ne l'accueille pas comme il faut. Voilà, donc en bref, l'univers des noms français des plantes, il est vaste, mais il peut être problématique si on cherche à l'enseigner ou à communiquer à son sujet à une échelle nationale ou internationale, parce que à travers le monde ou à travers les territoires, on n'a pas les mêmes façons d'appeler la plante, Et du coup, pour lever cette ambiguïté, il faut chercher la réponse ailleurs. Et cette réponse, on l'a dans le nom latin. Le nom latin, c'est ce qu'on appelle aussi le nom scientifique. Quand on va l'écrire à l'ordinateur, il faut le mettre en italique, c'est une convention. Il est composé d'un nom de genre et d'un nom d'espèce. C'est ce qu'on appelle la nomenclature binomiale. Les bases, elles ont été posées à partir du XVIIIe siècle par Carl von Linné, qui est un naturaliste suédois, à partir des travaux de John Ray et de Sébastien Vaillant. Cette nomenclature binomiale, elle est utilisée pour tous les êtres vivants, faune, flore et champignons. Elle est, quand elle est citée dans des documents scientifiques, on utilise donc ce double nom latin avec, c'est suivi par l'initiale en fait de l'auteur, de l'observateur, qui, voilà, Linné par exemple, ça sera un L majuscule avec un petit point pour expliquer qui a été l'observateur ou le descripteur de cette plante, bon, en tout cas de son nom latin. Donc on a un nom qui est plus ou moins conventionné et codifié. Parfois le nom latin il s'inspire directement du nom vernaculaire. Par exemple le trèfle des prés, trèfle en latin se dit trifolium, hein, trois feuilles, et pré se dit pratense. La menthe odorante ça sera Mantha suaveolens. Le grand plantain Plantago major, hein, on comprend que dans major ça veut dire grand. La renouée des oiseaux, ça sera Polygonum aviculare, le chénopode blanc, Chénopodium album, etc. L'avantage, c'est qu'ils parleront aussi bien un botaniste californien, italien, indien, estonien que coréen, parce que ce nom, il est scientifique, et donc à travers le monde, on sait identifier la plante à partir de ce double nom. Après, le nom latin des plantes, il est aussi plutôt inspirant. Il va à la fois se baser soit sur le nom français, le nom vernaculaire, mais aussi sur, comme je l'ai déjà expliqué, sur la forme que peut avoir le végétal. Par exemple, polygonum, j'ai parlé du polygonum aviculare. Polygonum, ça signifie plusieurs, poly, et gonum, ça veut dire... genoux ou angles, en fait. Donc, c'est une plante qui va avoir effectivement plusieurs angles au niveau du fruit. Donc, l'origine du nom viendrait de là. Aviculare, on pense à avière. Avière, ça veut dire oiseau. Donc, aviculare, ça signifie oiseau. Polygonum aviculare, en fait, c'est parce que les oiseaux vont consommer les graines de la plante. Voilà, donc, il y a une observation, on donne un nom à une plante. Album, on comprend que ça veut dire blanc, fragrance parfumée, arvensis des champs, pratensis des prés, comme je l'ai déjà dit, dubium, ça veut dire douteux, sylvatica, on retrouve la racine de sylvestre qui veut dire forêt, parviflora, ça veut dire à petite fleur, etc.
Alors, c'est bien pratique pour nous qui sommes français, cette base latine, mais pour les Coréens et les Indiens, ça va être vachement plus compliqué, non ?
Ils vont avoir forcément un nom vernaculaire, un nom commun qui sera autre. Il faut aussi que la plante, elle pousse sur leur continent, sur leur territoire. Il y a certaines de ces plantes qui sont présentes sur l'ensemble du globe. J'ai cité, par exemple, le chénopode blanc, qui est une des espèces les plus fréquentes au monde, hein, qu'on va trouver sur tous les continents. Le polygonum aviculare également. Donc, ils vont forcément l'appeler autrement, mais s'ils doivent l'écrire ou s'ils doivent en parler à des scientifiques... et qui veulent qu'on comprenne que c'est la même plante, ils vont utiliser le nom latin, en fait.
On va proposer quelques éléments de réponse à cette question de qui choisit le nom des plantes dans cette émission Herbaflore, mais après la musique. Jérôme, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Alors, je vous propose un titre qui, moi, qui me fait bouger, en tout cas, c'est Matt Cohn, Don't Worry. Trouble, I don't care where you've been. De retour dans l'émission Urbaflore, je parlais du nom des plantes, donc j'ai introduit l'émission en expliquant pourquoi on nommait une plante, comment elles étaient nommées, à travers les noms vernaculaires ou noms français et le nom latin qui est le nom scientifique. Et maintenant on va voir qui choisit le nom des plantes, où et comment on va trouver le nom des plantes et faire un petit focus sur Urbaflore comme d'habitude. Donc, qui choisit le nom des plantes ? Donc, le nom commun dont on vient de parler, c'est un choix qui est probablement issu d'une majorité ou d'une fréquence d'usage et de transmission orale, puis écrite du nom, qui a été admis et préféré à travers les générations et qui s'est plus ou moins fixé aujourd'hui. Donc, ça a tout un historique. Ça a fait l'objet d'une sélection aussi, finalement. Pour le nom latin, c'est l'auteur, le découvreur, l'observateur, celui qui décrit la nouvelle espèce de plante, qui fait le choix de la nommer, soit en fonction de son nom vernaculaire, soit en fonction de certaines propriétés, caractéristiques propres ou des caractéristiques de l'habitat. Parfois, le nom est choisi en hommage à une personnalité. Voilà, ça peut être un botaniste, par exemple. Et ce nom, il doit être admis et il est vérifié et normalisé par des institutions botaniques spécialisées. Ce nom latin, il peut aussi évoluer pour des besoins de clarification ou selon des avancées scientifiques. C'est pour ça que je parlais en introduction de nom qui est finalement dynamique. Et encore une fois, ce n'est pas toutes les espèces qui changent de nom tout le temps, mais certaines espèces, en fait, en fonction des avancées de la génétique, certaines espèces vont changer. Historiquement, les plantes, elles sont regroupées en grandes familles, hein, la famille des lamiacées, des rosacées, des liliacées, etc. Selon un certain nombre d'observations, de critères morphologiques des tiges, des feuilles et surtout des fleurs. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que certaines familles ont besoin d'être éclatées ou d'être regroupées selon des liens de parenté qui ont été dictés par les gènes. Du coup, ben, on justifie ce changement de nom au vu de ces avancées génétiques, scientifiques. Je voulais prendre quelques exemples un peu communs et puis d'autres un peu moins, mais la tomate, par exemple, elle a changé de nom. Son nom latin, c'était Lycopersicum esculentum, et aujourd'hui, elle s'appelle Solanum lycopersicum. Le bleuet, c'était Centaurea cyanus. Centaurea, ça fait référence au centaurée, puisque la fleur ressemble beaucoup à d'autres types de centaurées. Mais aujourd'hui, ben, on l'appelle autrement, on l'appelle cyanus segetum. Cyanus, ça fait référence au bleu, la couleur cyan. L'anthémis élevé, qui s'appelait anthémis altissima, hein, altissima, on retrouve cette notion de grand, s'appelle aujourd'hui cota altissima. Et enfin, la camomille romaine, qui était Anthemis nobilis, s'appelle Camaemelum nobile. Voilà, donc au conservatoire, en fait, pour être entre guillemets à jour sur les bons noms latins à utiliser, on utilise ce qu'on appelle un référentiel taxonomique, qui s'appelle TaxRef, et on en est à la version 17 de ce référentiel, qui est déployé par le Muséum National d'Histoire Naturelle, et nous permet donc d'avoir le nom correct, officiel et à jour pour tous les taxons de notre territoire d'agrément.
Alors, si on n'a pas ce pavé sous la main, comment on fait pour trouver le nom des plantes ?
Alors, après, encore une fois, on est dans une approche assez scientifique. Mais quand on veut trouver le nom des plantes, on a tout un tas d'outils aujourd'hui qui nous permettent de le trouver. Pour être dans l'actualité, l'outil que j'utilise aussi, mais que beaucoup de personnes qui veulent découvrir le nom utilisent également, ça c'est PlanteNet par exemple. Il y a l'application aussi Google Lens qui permet d'identifier un certain nombre de plantes. Ce sont des applications sur smartphone qui sont pilotées par des intelligences artificielles et pour lesquelles il faut être vigilant en fait. Parce que pour l'avoir testé, pour avoir aussi étudié la chose, quand c'est vérifié par des scientifiques, des botanistes derrière, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous envoyez la photo elle est traitée et pour certaines applications, c'est en fonction du nombre de oui que la photo reçoit, qu'elle est validée, que son nom est validé. Donc si 90% de personnes se trompent en disant cette plante en photo, elle s'appelle comme ça, les 10% restants qui ont raison n'auront pas la primeur du vrai nom, en fait. Ça sera le faux nom qui s'affichera, finalement, puisque l'intelligence artificielle ne fonctionne pas sur des bases scientifiques, mais sur la majorité qui l'emporte, quoi. Alors, bien sûr, comme je l'ai expliqué, il y a des photos qui sont validées derrière par des scientifiques et qui permettent de recalibrer l'information et d'avoir une donnée beaucoup plus fiable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et par contre, ce qui fonctionne toujours, ça sera le copain botaniste, l'adhésion à une association locale ou les guides et les flores qui permettront de trouver les noms des plantes. Quelques flores qu'on utilise au conservatoire, que mes collègues botanistes utilisent. Il y a Flora Gallica, la flore des champs cultivés de Josin, ça c'est pour les plantes des moissons qu'on appelle les plantes messicoles. La flore forestière de Rameau, la flore illustrée de Coste, qui est plutôt ancienne, mais bon, qui est valable. Bon, on n'y aura pas forcément le référentiel TaxRef version 17 dessus, mais ça permettra au moins de trouver le nom vernaculaire et puis un début de nom latin. Il y a également la flore portative ou illustrée de Bonnier, qui est plutôt pas mal, avec des belles illustrations. Et puis encore une fois que vous avez le nom d'une plante, vous pouvez aller vérifier leur synonymie ou voir un peu à quoi elle ressemble, aussi en allant sur le site internet du Muséum National d'Histoire Naturelle, et c'est l'INPN, l'Inventaire National du Patrimoine Naturel, qui référence l'ensemble des noms de plantes d'ailleurs, et de faune et de champignons. Donc là, vous aurez tous les synonymes que peut avoir la plante aussi, que vous avez pu identifier. Voilà, et puis pour conclure sur Urbaflore, dans le cadre de ce programme, en fait, le nom latin des plantes prioritaires qui font l'objet d'une surveillance, c'est le nom latin qui a été retenu pour échanger avec les bénévoles et les observateurs qui vont réaliser cette veille sur les populations. Pourquoi ? Parce que si on était parti sur le nom français, encore une fois, en fonction des terroirs ou en fonction des habitudes de chacun ou d'un héritage, hein, on peut avoir des grands-parents qui vont nous parler d'un Respunchus et puis d'autres qui vont lui donner un autre nom, hein, ça s'appelle aussi l'herbe aux femmes battues ou le tamier commun. En fonction des localités, on peut avoir une autre appréciation de la plante, même si c'est la même. Donc on est parti sur du nom latin, en tout cas. Et puis le nom latin des plantes, c'est le langage finalement commun des naturalistes. Ça permet de dresser, par exemple, le portrait d'un habitat ou des enjeux d'un site, au même titre qu'on peut avoir un peintre qui va assembler des couleurs pour faire sa peinture, finalement. Quand on assemble un certain nombre de noms de plantes, On peut avoir déjà une image de l'habitat et du site dans lequel on va se trouver. On peut être dans un habitat plutôt sec, plutôt humide, en fonction de telle ou telle espèce indicatrice, et même de... On va pouvoir dire s'il y a le plantain, par exemple, le grand plantain, ça peut être indicateur d'une prairie qui est pâturée. La présence d'orties, ça va être un indicateur d'un milieu qui est très riche en matière organique, etc. Et donc, quand vous faites cet assemblage de plantes, vous pouvez avoir l'image de l'habitat que l'ensemble de ces plantes représente. Voilà, et puis, j'ai un autre exemple là... qui fait que c'est important d'être à jour dans les référentiels taxonomiques pour identifier notamment les espèces protégées. Et il est important des fois de connaître les noms anciens des plantes. J'ai le trèfle écailleux en tête. Sur des dossiers qui datent des années à peu près 2010, il est mentionné sous le nom latin de Trifolium maritimum, sous-espèce maritimum. Ensuite, il s'est fait appeler Trifolium squarosum. Et aujourd'hui, il s'appelle Trifolium squamosum. Voilà, donc ce n'est pas forcément évident à suivre, surtout quand on n'a pas tout l'historique. Voilà, et puis pour conclure, le nom des plantes est un sujet vaste et passionnant qui immerge dans notre histoire culturelle et dans un regard savant sur le monde. Si nommer, c'est identifier, donner une existence, c'est aussi hériter de responsabilités, celle de comprendre et d'évaluer, de discerner et de relativiser, mais surtout de protéger. Si la botanique peut parfois passer pour désuète, elle reste aujourd'hui comme jamais un miroir de nos impacts sur la planète.
On retrouve Jérôme Garcia, chargé de conservation au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, chaque mois dans cette émission Urbaflore. Merci beaucoup Jérôme, on se retrouve en janvier.
On se retrouve en janvier, merci Lisa, et puis bonne fête à tous, bonne fête de fin d'année à tous, au revoir.